Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, deux grandes manifestations de l'opposition et du pouvoir prévues ce week-end à Kinshasa.
À Brazzaville, ouverture hier du procès de 6 policiers impliqués dans la mort de 13 jeunes fin juillet dans un commissariat de police.
Cameroun, l'Union européenne appelle le président Paul Biya, réélu à un 7e mandat dans un contexte sécuritaire tendu, à unifier le pays.
Sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, hier à N'Djamena, au Tchad.
Ici aux États-Unis, chasse à l'homme après l'envoi de colis suspects à des personnalités anti-Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, deux grandes manifestations politiques à signaler à Kinshasa en cette fin de semaine. La marche de l'opposition ce vendredi contre la machine à voter et le meeting de la coalition au pouvoir samedi dans l'un des plus grands stades de la capitale congolaise. Le gouverneur de Kinshasa, qui a autorisé les deux activités, met toutefois en garde leurs organisateurs contre tout trouble à l'ordre public. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Oui à la marche de l'opposition contre la machine à voter, mais sur un parcours bien tracé et encadré par la police. Ainsi en a décidé le gouverneur de la ville de Kinshasa. La manifestation des opposants partira donc ce vendredi de la place de l'échangeur à Limété jusqu'à l'espace situé entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement où ils avaient organisé leur meeting le 19 septembre dernier. L'opposition, qui a promis de se désigner un candidat commun à la présidentielle avant le 15 novembre prochain, entend par cette marche dire non à l'utilisation de la machine à voter lors des élections du 23 décembre prochain et exiger avant ces élections un nouveau nettoyage du fichier électoral. Au lendemain de cette marche, la coalition au pouvoir battra à son tour le rappel des troupes à la faveur d'un meeting prévu au mythique stade Père Raphaël de Kinshasa. Ce rassemblement va consacrer la sortie officielle du Front commun pour le Congo, qui présentera à l'occasion son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. À un mois du début de la campagne électorale, l'opposition et la majorité auront donc l'occasion de tester leur popularité dans la capitale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pour plus de précisions concernant toujours la République démocratique du Congo, l'opposition s'est réunie donc pendant deux jours en Afrique du Sud et s'est engagée à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun pour l'élection présidentielle du 23 décembre. Participer à cette réunion, les candidats à la présidentielle Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et l'opposant Adolphe Muzito, qui n'a pas pu se présenter. Félix Tshisekedi, candidat de l'UDPS, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, deux candidats recalés, avaient envoyé des représentants à Pretoria.
À Brazzaville, la justice a ouvert hier le procès de 6 policiers accusés d'homicide involontaire dans l'affaire des 13 jeunes décédés fin juillet dans un commissariat de police. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Les 6 prévenus mis aux arrêts peu après la mort des jeunes la nuit du 22 au 23 juillet dans le commissariat de Chakoma au quartier Mpila sont poursuivis pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Dans cette affaire, l'État congolais s'est aussi constitué en partie civile. Les avocats des victimes et ceux de la défense ont demandé au tribunal de reconsidérer le rôle de l'État. Il n'a pas souffert de préjudice occasionné par les prévenus. Les policiers qui sont ses préposés, il faut plutôt le placer dans le statut de civilement responsable, a déclaré maître Yvon-Éric Ibouanga, un des avocats des victimes. Pour la défense représentée par maître Nestor Obambe, il y a la théorie du cumul de responsabilités. Un préposé ne répond pas des actes qu'il pose quand il est en service, c'est l'État qui est responsable. Le tribunal doit examiner cette demande. La prochaine audience est prévue pour le 8 novembre. Rappelons qu'après ce drame, le gouvernement congolais avait accordé 2 millions de francs CFA par famille pour l'enterrement des victimes. Dans un rapport publié en septembre, l'Observatoire congolais des droits de l'homme a indiqué que ces jeunes avaient été torturés et exécutés au commissariat de police.
L'Union européenne a appelé hier le président Paul Biya à unifier son pays grâce à un processus de dialogue avec tous les acteurs et à empêcher les troubles après les élections. Monsieur Biya vient d'être réélu au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu en 7e mandat à la présidentielle du 7 octobre dernier. Si les élections se sont globalement tenues dans le calme, une partie de la population n'a pas été en mesure de participer au vote, a regretté l'UE. Elle s'est également déclarée préoccupée par la situation dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Est, où l'armée affronte des séparatistes armés.
Au Tchad, sommet extraordinaire hier à N'Djamena, des chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Thème de ce sommet, ensemble pour la redynamisation économique et la coprospérité sociale. 3 chefs d'État sur 6 étaient présents à cette rencontre. Outre le président du pays hôte, Idriss Déby Itno, il y avait l'équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema et le congolais Denis Sassou Nguesso. Le camerounais Paul Biya s'est fait représenter comme de coutume par son premier ministre, le gabonais Ali Bongo Ondimba par son ministre d'État et le centrafricain Faustin Archange Touadéra par son ministre des Finances. De N'Djamena, compte rendu de notre correspondant André Kodmadjingar.
Convoqué à N'Djamena par le président en exercice de la CEMAC Idriss Déby Itno, cette conférence a permis aux dirigeants de la sous-région CEMAC de revoir les dérapages budgétaires afin de sauvegarder leurs relations avec les partenaires financiers. Pour le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, 2 ans après l'adoption d'une série de mesures à Yaoundé au Cameroun pour faire face à la crise économique induite par la chute du cours du pétrole, les résultats restent en deçà des attentes. Cette situation suscite de fortes inquiétudes sur les partenaires financiers qui attendent des réponses claires aux dysfonctionnements de l'économie pour accompagner les États membres vers une sortie de crise. Daniel Ona Ondo invite la République du Congo et celle de la Guinée équatoriale à conclure urgemment les programmes économiques et financiers avec le FMI afin d'éviter les risques des passagers clandestins. Il ressort du communiqué final la réforme de la Banque du développement des États de l'Afrique centrale. Aussi, les dirigeants de la sous-région sont-ils résolus à intensifier des actions visant à éliminer la menace terroristes dans le bassin du lac Tchad. Tout en encourageant les États membres à faire respecter la convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale et la réglementation d'échange en vigueur en vue de favoriser le rapatriement intégral de recettes d'exportation, les chefs d'État réitèrent leur engagement en faveur d'une sortie de crise coordonnée, concertée, maîtrisée et solidaire. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'enquête sur les 10 colis piégés adressés à des personnalités démocrates et à des critiques du président américain Donald Trump se concentre sur la Floride. La police américaine a lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le ou les responsables de l'envoi de ces colis suspects à des personnalités anti-Trump. Mais le mystère restait entier sur leur identité, Jean-Roger Bion.
Les colis suspects interceptés mercredi et jeudi sont tous passés par le système postal américain à un moment donné. Selon le FBI, de nombreux colis avaient comme adresse de retour le bureau de la députée américaine Debbie Wasserman Schultz en Floride. Cette parlementaire présidait auparavant le comité national démocrate. Les colis ont tous été interceptés avant qu'ils ne parviennent à leur destinataire. Aucun paquet n'a explosé, aucune victime n'est à déplorer. La liste des cibles s'est allongée jeudi, la police fédérale confirmant qu'un colis suspect a été adressé à Manhattan, à l'acteur Robert De Niro, très critique de Trump, et 2 à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden dans le Delaware. Le FBI a confirmé que ces envois étaient semblables aux enveloppes contenant des bombes artisanales adressées mardi et mercredi à l'ex-président démocrate Barack Obama, à l'ex-secrétaire d'État et rivale malheureuse de Donald Trump à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, à l'ex-ministre de la Justice d'Obama, Eric Holder, à la députée démocrate californienne Maxine Waters et à la chaîne CNN à New York. Dans le contexte de polarisation de la société américaine, ces incidents ont exacerbé la tension à moins de 2 semaines des élections de mi-mandat, le 6 novembre, où les démocrates vont tenter de faire basculer le Congrès. Donald Trump a imputé aux mensonges des médias fake news la responsabilité de la colère qui a provoqué, selon lui, l'envoi de ses colis piégés. Le président Donald Trump a promis une enquête poussée.
Face à la progression d'un cortège de milliers de migrants qui veulent traverser le Mexique pour tenter d'entrer aux États-Unis, Washington va déployer l'armée à la frontière sud. Des détails avec Nani Talani.
Le Pentagone doit déployer 800 militaires à la frontière avec le Mexique. Ces troupes de l'armée régulière viendront renforcer les plus de 2000 réservistes de la garde nationale déjà sur place depuis le printemps. Les renforts comprendront des médecins et des ingénieurs. Ils apporteront un soutien logistique et matériel, dont des tentes et des véhicules. Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière. J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés, a tweeté le président Donald Trump. En pleine campagne pour les élections de mi-mandat, il a toujours dénoncé la caravane de migrants comme un assaut. Après avoir tenté de les bloquer, le Mexique les a laissés progresser. Selon le gouvernement mexicain, 1743 personnes ont déjà déposé une demande d'asile. L'ONU avait avancé le chiffre de 7000 migrants partis d'Amérique centrale, engagés dans une longue marche de 3000 km vers la frontière américaine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Raissa Girondin.
Au Sénégal, les prévisions de croissance économique sont au beau fixe, estimées à 7% en 2018. De bonnes performances qui ne règlent pas les défis en termes de croissance inclusive. Les autorités sénégalaises ont annoncé la signature d'un plan cadre d'assistance au développement avec le système des Nations Unies, d'un coût estimé à 573 millions de dollars. Ce plan à caractère humanitaire et social est prévu pour la période 2019-2023. Le budget nigérian 2018 devrait bientôt disposer de 6,6 milliards de francs CFA octroyés par la France à travers l'Agence française de développement. Ce financement permettrait au Niger de lutter contre la pauvreté et de se confronter aux exigences du Fonds monétaire international en termes d'équilibre macroéconomique. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire est restée excédentaire à près de 3 milliards de dollars, malgré une baisse de 40% des cours mondiaux de son principal produit d'exportation, le cacao. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres, cette efficacité s'explique notamment par une bonne performance des produits d'exportation, notamment le cacao, la noix de cajou et le coton fibre. En 2014, l'épidémie d'Ebola ayant touché plusieurs pays de la région ouest africaine a coûté environ 53 milliards de dollars aux économies de la région. L'étude publiée dans Journal of Infectious Diseases indique que le coût global de la flambée d'Ebola en 2014 est plus dévastateur que le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003 et l'éclosion du virus Zika dans les Amériques entre 2015 et 2016.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Arsenal continue sa belle série, même en Ligue Europa.
Les Gunners ont enchaîné hier une 11e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, avec un succès 1-0 sur la pelouse du Sporting Portugal lors de la 3e journée de la Petite Coupe d'Europe. Soirée plus compliquée en revanche pour l'AC Milan, battu à San Siro par le Betis Séville 2-1. Milan compte quand même 2 points d'avance sur l'Olympiakos, vainqueur 2-0 de Dudenlang. Dans le groupe B, le FC Salzbourg s'est imposé 3-0 contre Rosenborg et le RB Leipzig a vaincu le Celtic 2-0. Le Zénith Saint-Pétersbourg est venu à bout 2-1 de Bordeaux. Zurich a battu Leverkusen 3-2. Anderlecht et Fenerbahçe ont fait match nul 2-2 dans le groupe D. Les Turcs sont deuxièmes derrière le Dynamo Zagreb qui continue son sans faute avec une victoire 2-1 chez les Slovaques du Spartak.
Al-Masri a saccagé le vestiaire du Stade des Martyrs.
Humilié par Vieux Club mercredi en match retour de la demi-finale de la Coupe CAF, les joueurs et le staff technique d'Al-Masri ont mis à sac leur vestiaire au Stade des Martyrs. Les Égyptiens ont attendu la fin du match pour saccager et détruire d'abord les panneaux publicitaires présents au bord du terrain, ensuite ils sont allés briser les vitres et détruire la porte de leur vestiaire pour enfin finir avec les chaises, tables et autres matériels. Sur le terrain, ils ont été battus 4-2 par Vieux Club qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe CAF.
En Europe, Marcelo s'entraîne à 2 jours du Classico.
Oui, victime d'un tacle par derrière, le latéral gauche brésilien a été contraint de quitter la pelouse en fin de match mardi en Ligue des Champions contre le Victoria Plzeň. D'après le site internet du quotidien sportif Marca, les examens médicaux ont écarté toute blessure et Marcelo est optimiste pour le choc de la 10e journée en Liga. Le Real Madrid, 7e avec 14 points et en pleine crise de résultats, se déplace dimanche au Camp Nou pour tenter de revenir sur le leader barcelonais, premier avec 18 points et de sauver la tête de Rulen Lopetegui, très menacé. NBA pour finir, avec vous Idrissa, quelques résultats de l'année dernière.
Les LA Lakers ont eu leur deuxième victoire de la saison avec LeBron James après avoir perdu leurs trois premiers matchs en battant hier soir Denver qui était jusqu'ici invincible, 121-114. Cleveland, l'ex-équipe de LeBron, toujours sans victoire, battue par Détroit, 110-103. Idem pour Oklahoma City, battue par Boston, 101-95. Enfin, victoire de Portland sur Orlando, 128-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Face à l'insécurité au Mali, la prorogation de l'état d'urgence n'aura pas d'effet à Tombouctou. Les populations sont plus préoccupées par la situation sécuritaire avec des militaires maliens casernés, les forces internationales cantonnées et la population livrée à elle-même, selon un constat de notre correspondant Kassim Traoré qui s'est rendu à Tombouctou.
Tombouctou est l'une des rares villes au monde située entre le fleuve et le désert. La capitale des 333 saints est confrontée à d'énormes difficultés. Djadji Amadou Maïga de la société civile.
On a l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Parce que la prison, elle est fermée, elle ne permet pas de sortir. Mais nous, nous avons l'impression d'être libres alors que nous ne sommes libres de rien. On n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre de nos actions, on n'est pas libre de nos idées, on n'est même pas libre de notre conscience. Parce que des influences multiples font que notre conscience même est quelque peu touchée dès lors où il se passe autour de nous un certain nombre de choses qui sont inimaginables.
Région d'agriculture, de pêche et d'élevage, mais faire écouler ces produits sur d'autres marchés devient difficile. Touré Fadimata Tandina de la CAFO.
Ce que nos produits ne peuvent pas être écoulés, vu qu'on ne peut pas se déplacer. Et ce que nous subissons, c'est que l'insécurité fait que nos forains ne peuvent pas quitter Tombouctou pour aller faire les jours de foire, aller dans les villages voisinants pour faire le marché, sous peine de se faire braquer ou de se tirer dessus ou au pire perdre sa vie. Donc l'insécurité est un goulot d'étranglement pour les femmes de Tombouctou aujourd'hui.
Les transporteurs sont plus souciés car le prix du transport a doublé, voire triplé sur l'axe Bamako-Tombouctou. Tamba Doukouré, transporteur.
Bamako est Mopti 9 000 francs. Mopti est Tombouctou 35 000 francs, moins de 35 000 francs en bâton. Ça c'est 50 000 francs. Aller-retour 100 000 francs. Un pauvre Tombouctien qui est en train de souffrir. Il dit qu'il faut aller à Tombouctou, revenir 100 000 francs. 10 mois 200 000 francs. Qu'est-ce que tu peux aller? Comment les transports étaient à 15 000 francs et aujourd'hui on est à 50 000 francs? Quelle autorité peut exprimer ça? Et vous dites que vous êtes en train de gérer les problèmes. Quel problème que vous êtes en train de gérer?
À la question de savoir si la prorogation de l'état d'urgence est une solution pour l'insécurité à Tombouctou, la réponse est la suivante.
À Tombouctou, non. Tombouctou, on ne sent pas. Parce que quand on parle d'état d'urgence, les militaires même sont cantonnés ici. Donc on peut parler de quoi comme état d'urgence? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. On peut venir ici attaquer quelqu'un. Personne ne grogne. Donc ça veut dire que l'état d'urgence n'a pas d'impact. La prolongation de l'état d'urgence n'a pas d'impact sur la ville de Tombouctou. Les Tombouctouciens même ne pensent même pas à ça.
Djadji Amadou Maïga de la société civile pense que l'état a démissionné face à la situation de Tombouctou.
En se trouvant dans un certain nombre de situations, devant des autorités qui disent être engagées pour la paix, pour la tranquillité, pour la stabilité de la ville et même de la région, rien de cela ne se passe. Donc cela donne des inquiétudes et nous nous posons la question de savoir mais qui on veut berner et quelles dispositions l'autorité est en train de mettre en œuvre pour que les populations se sentent en sécurité. Si vous partez par la route, on vous arrête, on vous braque, on vous rançonne. Si vous partez par le fleuve, c'est la même chose et l'avion ne vient plus. Donc il n'y a aucun moyen en dehors de la MINUSMA qui est là et qui est là pour ses activités.
Dans la ville de 333 saints, beaucoup de gens sont désespérés à cause de l'insécurité car aucune activité génératrice de revenus ne peut prospérer dans cette situation. Tombouctou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, le personnel soignant du centre de traitement à Baraka s'inquiète de nombreux cas de choléra. En moyenne, 7 nouveaux cas sont admis par jour. et Médecins sans frontières estiment que l'on est en pleine phase épidémique. Baraka est situé à plus de 200 kilomètres au sud de Bukavu. Notre correspondant Ernest Muhero s'est rendu sur place.
Sous une chaleur suffocante des Baraka, les choléras rongent à petit feu la population. Les interventions en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement sont encore insuffisantes. Bora Assoumani est une habitante des Baraka. Selon elle, le gouvernement fait des efforts, mais les besoins ne sont pas tous couverts.
Les problèmes d'eau, c'est grave. On peut servir aujourd'hui un quartier, demain l'autre quartier. Il y a des puits qui ne donnent pas de l'eau. Si tu n'as pas eu de l'eau, tu seras toujours obligé d'aller au lac. Et les enfants qui ne savent pas quelle est l'eau qu'on peut boire, quelle est l'eau qu'on ne peut pas boire, ils prennent même de l'eau du lac pour boire ça.
Médecins sans frontières suit de près la maladie et assiste la population aux côtés des services du ministère congolais de la Santé. Igor Rugenyeka est responsable des activités médicales externes au sein des MSF à Baraka.
C'est vrai que nous vivons la situation de façon endémo-épidémique depuis le mois de janvier, mais à la 20e semaine, les cas étaient quand même gérables. Mais après la semaine 21-22, c'était passé au seuil épidémique. Et là, on se bat avec cette épidémie depuis maintenant plus de 20 semaines. Il faudra savoir qu'il y a des mesures qu'il faut mettre en place pour essayer d'utiliser les eaux des rivières ou l'eau des lacs. Et ce sont ces mesures parfois qui sont difficiles à la communauté, étant donné qu'ils doivent utiliser la même eau pour boire, pour tous les travaux ménagers. Ça devient compliqué.
Au centre de traitement des choléras, plus de 1000 malades ont déjà été soignés depuis le début de l'année sans enregistrer des décès. Mais les problèmes ne concernent pas que Baraka. Will Van Roekel, coordinatrice médicale de MSF Hollande, appelle à une approche préventive plus durable, impliquant d'autres intervenants en synergie.
MSF se sentir seul de temps en temps, et ça c'est pas bon. Notre expertise c'est pour traiter les malades. Mais à le même temps, il y a l'autre chose qui sont nécessaires pour prévenir. Et pour ça, ça c'est le plaidoyer. C'est vraiment important, tout le monde travailler main à main, tous les ONG et le ministère de Santé pour arrêter ces maladies.
Pour toute la zone de santé de Fizi, Médecins sans frontières a déjà soigné plus de 11 000 malades du choléra de 2014 à 2018. Des malades rencontrés en plein traitement au CTC disent se sentir de mieux en mieux. L'infirmier de ce centre, Albert Mbeo Mouetou Tumbula, reste optimiste.
Il n'y en a pas de rupture de médicaments aussi ici au CTC. Donc, le seul conseil qu'on peut donner à la population de Baraka, le respect des règles d'hygiène, tout simplement.
Ernest Mouero, depuis Baraka, à 210 km au sud de Bukavu, pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la vaccination en République démocratique du Congo.
Le 10 octobre dernier, les autorités congolaises ont inauguré un grand centre de stockage des vaccins près de la capitale. Elles annoncent par ailleurs un plan d'urgence visant à vacciner plus de 200 000 enfants d'ici 2020.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Michel Niemboué Kalala, chargé de la surveillance au programme élargi de la vaccination de la RDC.
Nous parlerons des défis liés à cette politique vaccinale avec le docteur Pouema Toussaint, médecin traitant dans un centre de santé de Lumumba.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
En Éthiopie, les parlementaires ont désigné à l'unanimité et pour la première fois une femme, Sahlaouek Zewde, présidente du pays, après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Pour une analyse, Ekia Badou a joint à New York Sige Shifero, une journaliste d'origine éthiopienne.
La symbolique, c'est tout simplement que le premier ministre actuel continue sa politique d'intégrer les femmes dans la vie politique du gouvernement, dans la vie politique du pays. Cela indique que les femmes comptent, que leur opinion compte. Ceci étant dit, elle est présidente, elle n'est pas premier ministre, donc son rôle est purement symbolique. Maintenant, à voir s'il la consultera pour certaines questions, notamment d'ordre diplomatique, puisque c'est son domaine d'expertise à Madame Sahlaouek Zewde.
Qu'est-ce qu'elle peut apporter au niveau de la diplomatie?
Disons qu'elle a une excellente connaissance du continent africain, puisqu'elle a été pendant plusieurs années directrice du Bureau Afrique sous le régime de Meles Zenawi. C'est une ancienne ambassadrice. Et pendant cette période où elle était directrice du Bureau Afrique au ministère des Affaires étrangères, elle avait constitué une très très forte liaison avec quasiment tous les diplomates qui représentaient leur pays auprès de l'Union africaine. J'en ai été témoin à plusieurs reprises, puisque nous connaissions. C'est quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passe et les diplomates allaient souvent vers elle pour avoir une idée de ce que son gouvernement comptait faire sur certaines questions. Et puis, elle a aussi avec elle son expérience en usine qui ne peut que être bénéfique pour un premier ministre qui, au niveau international en tout cas, n'a peut-être pas l'expérience nécessaire.
Dans les mentalités, justement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être une évolution grâce à cette parité, le fait de voir que des femmes sont capables? Est-ce que c'est un signe qui peut vous donner un optimisme quelconque? En tout cas, une envie de voir les lignes bouger?
J'ose l'espérer. C'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un gouvernement qui est jeune, pour une population qui est extrêmement jeune. Donc, ce sont des nouveaux repères pour une société dont la moyenne d'âge est autour de 25 ans, si ce n'est moins. Donc, c'est un nouveau modèle à suivre. On a l'impression, je parle peut-être avec beaucoup d'optimisme, mais on a vraiment l'impression qu'une page de l'histoire de l'Éthiopie a été tournée, où on a à présent un leader avec un état d'esprit ouvert, contrairement à ses prédécesseurs qui n'ont pas toujours fait preuve d'ouverture d'esprit envers leur propre population.
C'était la journaliste américano-éthiopienne Sigé Sifuro.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, de nouveaux colis suspects ont été envoyés visant l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans la foulée, le président Donald Trump a accusé les médias d'être en grande partie responsables de la colère dans la société américaine. Cette affaire de colis qualifiés de potentiellement explosifs peut-elle avoir un impact sur les élections de mi-mandat du 6 novembre? Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint l'ancien diplomate et président de Global Situation Room, Brett Brun.
Malheureusement, je crois qu'on voit des deux côtés certains avantages. C'est-à-dire, il y en a dans le parti républicain qui vont dire qu'il faut aller voter pour empêcher ce type d'action. Et il y en a un côté démocrate qui vont dire « Nous avons besoin de changer le gouvernement, alors on va aller voter. » Je crois que nous restons dans cette même division qui existait auparavant. Le problème, c'est que la distance entre les deux côtés, c'est beaucoup plus loin.
D'une certaine façon, cela renforce les extrêmes de chaque côté?
On peut dire que ça renforce les extrêmes. On peut dire que même les voix extrêmes auront de puissance parce que dans ces moments de crise, on écoute plutôt aux voix qui représentent les préférences des uns et des autres. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, on va voir que, comme ailleurs, certaines voix qui disent qu'il n'y a pas de preuves, c'est juste une chose que les démocrates ont inventée pour les aider. C'était le cas hier qu'une bonne partie des gens à l'extrême droite croyaient ces commentaires. À l'autre côté, on voit que les démocrates sont assez agressifs en mettant le doigt vers le président pour ses actions. Je crois qu'il faut avoir plus de voix indépendantes et il y a une certaine responsabilité au niveau de la presse pour ne pas créer ou ajouter à cet environnement. Mais en même temps, bien sûr, il y en a des journalistes qui se sentent assez vulnérables, assez en danger en ce moment. Et à cause de ça, je crois qu'il y en a qui voudraient trouver la façon par laquelle on pourrait changer cet environnement. Et si vous voulez, la presse est devenue un acteur dans ce drame.
C'était l'ancien diplomate Brett Brun, président de Global Situation Room.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.